CCIM Martinique, la CCI Martinique. Après, je suis allée au cabinet de Madeleine de Grandmaison, qui était présidente du comité martiniquais du tourisme. Ensuite, j'ai été recrutée par André Le Sieur, maire de Rivière-Salée, et aujourd'hui, depuis 2020, président de la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique. Alors, pourquoi je m'intéresse à la démocratie participative? C'est parce que je me suis rendu compte parfois de la limite qu'avait la démocratie représentative, qui est la démocratie que nous connaissons en France. Donc, il y a 2 jours, je discutais avec un maire qui me disait, de toute façon, la démocratie participative, on en fait déjà, puisqu'on appelle les citoyens à voter. Alors, j'ai dit, ok, mais tous les 6 ans, c'est sympa hein, de dire qu'on donne la parole aux citoyens, parole silencieuse, parce que quand on vote, on n'essaie pas de le dire trop fort devant l'urne, pour qui on vote. Donc, la démocratie participative ne se fait pas tout à fait, effectivement, dans les urnes, hein. Elle se fait ailleurs, parce qu'elle est une option qui est offerte aux élus à l'intérieur de la démocratie représentative. Donc les élus nous représentent, n'est-ce pas? Donc ils représentent le peuple, vous représentez le peuple. Donc c'est ça le côté représentatif. Donc la démocratie participative, pourquoi? Pour faire participer les citoyens. Participer à quoi? Mais participer aux décisions, participer au pouvoir. Et je vais vous amener avec moi, en temps, on va dire, plutôt court, hein, pour ne pas prolonger les débats, à gravir 5 étages. D'abord, avant les étages, il y a le rez-de-chaussée, le niveau 0, le niveau 1, le niveau 2, puis jusqu'au niveau 5. Il faut savoir qu'en démocratie participative, il y a des étages, des étapes. Le niveau 0, rez-de-chaussée, c'est ce qu'on fait beaucoup, des réunions d'information. C'est de la démocratie participative. Mais niveau 0, désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai, donc on vient et on demande aux citoyens de discuter avec nous, même pas. On vient, on leur dit, voilà ce qu'on a proposé, voilà ce qu'on va faire. Donc ce sont souvent des réunions descendantes. Mais c'est déjà de la démocratie participative, parce que parfois, dans des villes, dans des lieux, il n'y a pas de, même pas de, tellement de réunions d'information. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite, en niveau 1, quand on monte le premier étage, on va là dans la consultation. Donc on consulte nos concitoyens. D'accord? Très bien. Ensuite, on va dans la concertation. Alors, j'en viens sur la consultation. Là, on consulte, effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez unilatéral. On demande l'avis sur une question. Donc, les citoyens se positionnent sur un avis à donner. Et puis, il y a la concertation. Et c'est là qu'on commence ce que je vais appeler la vraie démocratie participative. Donc, la concertation. Là, on est dans une salle, on invite les citoyens ou à l'extérieur, comme vous voulez, on peut inventer plein de formats, de formes. Et là, on a des discussions et des échanges. Et c'est là que le citoyen a la parole directe, a la parole sur un sujet, peut échanger, peut donner son avis. Donc là, on est vraiment dans l'échange. On n'est pas dans une communication descendante. C'est un échange bilatéral ou trilatéral. Mais en tout cas, c'est un échange. Donc ça, c'est la concertation. Et puis là, après la concertation, il y a la co-construction. On co-construit un projet. Par exemple, vous avez une médiathèque qui doit se construire. Vous allez demander à vos concitoyens de venir vous donner leur avis, leur impression, de venir vous dire comment ils voient la médiathèque, dans quel lieu. Mais là encore, il y a des gradations à l'intérieur de la co-construction. Ça veut dire que ça dépend à quel moment du projet vous allez co-construire avec vos concitoyens. Est-ce que c'est au moment où l'architecte n'a pas encore dessiné? Est-ce que c'est quand il a dessiné déjà? Ou est-ce que c'est quand c'est déjà bien monté, la bibliothèque, la médiathèque, et qu'il faut co-construire sur le contenu que vous aurez dans cette bibliothèque, médiathèque? Donc voilà, donc même là, il y a aussi des gradations. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous avez la co-décision. Et c'est là la forme la plus rare de démocratie participative, parce que là, vous demandez aux concitoyens de décider avec vous. Parce que toutes les autres formes de démocratie participative, c'est vous qui décidez. Quand même, à la fin. D'accord? Donc là, vous avez la co-décision, et là, on est vraiment dans une démocratie participative très, très aboutie. Donc ça, c'est un choix politique que vous devrez faire quand vous allez mener une action de démocratie participative. Alors, quand j'ai dit ça, je vous ai effectivement apporté quelque chose de théorique sur ce que c'est que la démocratie participative. Alors souvent, les élus, je suis personnel politique aussi, mais on fait cela et on se dit, ok, on va bâtir un projet comme ça. Alors pourquoi souvent on n'a pas effectivement atteint le premier étage, le deuxième étage même? Parce que je vais vous apprendre quelque chose que vous savez peut-être, en tout cas ceux qui ne le savent pas, je vais vous apprendre quelque chose. Quand on fait de la démocratie participative, il y a ce qu'on appelle les praticiens de la démocratie participative. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont formées pour animer la démocratie participative. Alors souvent, on se dit, bon, ce collaborateur-là, il est sympa, il sait discuter, il est convivial, il sait interagir avec les citoyens, ben, on va le mettre à faire de la démocratie participative. Pourquoi pas? C'est souvent ce que nous faisons. Or, c'est un vrai métier, c'est une vraie procédure, c'est un vrai contrat qu'on va mener avec les concitoyens, et ça se fait par des praticiens qui savent. À l'intérieur de la pratique de la démocratie participative, avec ces praticiens qui savent, il y a ce qu'on appelle, donc ces praticiens sont des facilitateurs, souvent en intelligence collective. Donc eux, ils vous montrent à l'intérieur de votre processus des ateliers qui vont permettre à chaque étape de ce que vous voulez connaître, comprendre et savoir de ce que les concitoyens pensent, des résultats attendus sur chaque question, sur chaque étape de la concertation, de la consultation, de la co-décision, de la co-construction. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous apporter sur ce domaine-là en termes de théorie. Et puis, je vais vous apporter aussi mon expérience. Alors, si je parle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que, alors, le jeu est condamnable, hein, mais c'est que j'ai fait cette formation de la démocratie participative dans sa structuration et aussi comment on l'anime. Donc j'ai fait la certification professionnelle d'animation de ces choses-là, donc de certification en intelligence collective. Si aujourd'hui je suis devant vous, chers élus, c'est parce que je pense que nos territoires ont vraiment besoin aujourd'hui que les citoyens s'expriment et qu'ils s'expriment de façon la plus libre possible. Parce qu'on a tendance, nous les politiques, hein, je m'inclus dedans, à se dire il faut cadrer. Il faut qu'on puisse se dire, voilà, on fait une réunion, mais faut pas qu'ils disent trop de choses, il faut pas qu'on leur montre trop, parce qu'ils vont certainement dire que c'est pas bon, etc. Je vous donne un exemple concret. Ici en Martinique, on a un maire, je peux le nommer, monsieur Ralph Onplaisir. Il avait un projet de port dans sa commune, port de Plaisance. Il était convaincu que c'était ce qu'il fallait faire. Il a bien senti la grande montée de la population. Il s'est dit, bon, les élections approchent. Hein, parce qu'attention, nous, les politiques, nous avons cette contrainte, non seulement du temps, mais du temps politique, que n'ont pas les administratifs. Donc, il a dit, je vais consulter ma population, parce que c'est dangereux, je risque de perdre les élections à cause de ça. Il a consulté la population. La population a dit non, en bloc. Pas de port de Plaisance à Casse-Pilote. L'opinion publique s'est dit, c'est sûr, il va perdre les élections. Ah oui, là, il a été désavoué par sa population. Eh bien, il a gagné les élections parce qu'il a donné la parole à sa population, il a fait confiance à sa population et il a écouté sa population. Alors, quand je vous rassure, la population n'a pas toujours raison. Donc, le débat se situe là aussi. Mais il n'empêche que sur nos territoires, dit DOM, sur les territoires insulaires et même continentaux, quand il s'agit de la Guyane, il faut vraiment que dans nos populations, qui sont des populations orales, à coutume orale, qu'on puisse vraiment donner la parole à nos populations. Ça n'enlèvera pas la force politique, ça n'enlèvera pas la force de nos décisions politiques et la puissance de la représentativité que les élus ont en France métropolitaine et en France des îles comme chez nous. Et je crois que nous gagnerons dans les DOM à actionner ces outils de démocratie participative et surtout à former des personnes qui pourront effectivement nous aider, vous aider élus, à mettre en place ces dispositifs dans les règles de l'art. Parce que mettre en place une réunion publique simplement pour informer, pour échanger oui ou non, vous n'aboutissez pas à ce que ce serait la quintessence qualitative de ce que doit être un processus de démocratie participative. Alors, je ne peux pas aller tellement plus loin que ça avec vous dans ce cadre-là. Simplement vous dire que j'espère vous avoir convaincu, hein, tant soit peu, que pour justement convaincre vos édilités, convaincre vos collègues à l'intérieur du conseil municipal, du conseil communautaire, parce que les communautés d'agglomération aussi doivent entrer dans cette logique. Il ne faut pas simplement, à mon avis, se contenter des obligations réglementaires qui sont souvent liées à des documents environnementaux qui vous obligent à aller dans ce sens. Et puis, une chose aussi, peut-être ne faut-il pas non plus mettre la démocratie participative à toutes les sauces. Il y a parfois des moments où la décision doit venir, effectivement, pardonnez-moi de dire ça, mais du haut. Et puis, il y a des moments où la transversalité nous amène et nous oblige, à faire cet échange libre avec la population. Et je vous invite à ne pas avoir peur du refus de la population. Une population qui refuse n'est pas contre vous, n'est pas contre les élus. Simplement, elle dialogue avec ses élus. Et souvent, dans les moments de concertation, de co-construction, parfois de co-décision, mais on va rester sur les choses les plus courantes, consultation, concertation, la population adhère, parce que simplement, elle donne des idées, elle donne son point de vue, et on fait quelque chose qui correspond à ce qu'elle a envie de voir. Et puis, vous avez aussi cet argument, vous élus, quand vous mettez la concertation, la consultation du public, des citoyens, au cœur de vos programmes, hein, vous pourrez leur dire, mais nous avons décidé ensemble, vous étiez là, vous savez que nous étions en accord sur les choses. Si ça ne va pas, ou si ce n'est pas ce que nous voulions, ou si vous avez constaté que ce n'est pas ce que vous avez imaginé, vous savez ce que vous répondez. Nous allons corriger ensemble, parce que nous avons là une co-responsabilité de l'action qui a été menée là. Donc, c'est un outil qui a un outil, pour moi, une puissance pour les élus. Attention à ne pas instrumentaliser, c'est-à-dire à faire simplement des effets d'annonce, et que finalement, derrière, la population n'a pas été écoutée. Donc, c'est une question de confiance entre la population et les élus. Et mener ces actions en allant déjà au troisième étage, c'est pas mal, mais encore une fois, pour ça, il faut vraiment que vous soyez accompagné de personnes qui savent, des professionnels de l'intelligence collective, qui vont vous créer des ateliers et qui vont vous permettre de connaître vraiment le fond des besoins et de l'opinion de vos concitoyens et de leur avis sur les choses. Souvent, mon patron me dit, moi, dans la rue, je sais, les gens me parlent. Ramener les gens de la rue à l'intérieur de nos institutions pour qu'ils puissent effectivement donner leur avis en dehors de tous les 6 ans, s'il vous plaît, de tous les 6 ans dans une urne avec un silence assourdissant. Donc, il faut donner la parole. Pour moi, il faut vraiment qu'on fasse cet effort. Alors, je me tiens à votre disposition si vous voulez en savoir plus, parce que je pourrais vous orienter sur très, très, très bénévolement sur ce que vous avez envie de faire, parce que l'expérience que j'ai en la matière n'est pas toute petite. Hein, j'ai participé à la consultation de l'Europe sur toute la France. J'étais celle qui a fait l'animation facilitation pour la Martinique, donc consultation européenne qu'a menée M. Macron il y a à peine un an. J'ai travaillé sur la consultation en Martinique pour la préfecture avec plus de 100 personnes à animer des ateliers pour les addictions, la drogue, etc., les alcools en Martinique. Donc ça a donné un projet pour la préfecture pour qu'ils puissent effectivement combattre ce fléau. Et puis, elle vient s'aller sur la politique culturelle. Et puis, en interne, j'ai fait de la participation interne avec mes collègues. Donc, voilà, je peux vous témoigner de l'efficacité de ces dispositifs de démocratie participative, qu'elle se fasse en interne dans vos services ou à l'extérieur avec les concitoyens. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Et encore une fois, je suis à votre disposition pour de plus amples explications et des conseils si vous le souhaitez.
Alors, on va maintenant demander à M. Pierre-Marie Joseph. Merci. Il est membre du groupe Outre-mer au CESE.
Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, je suis Pierre-Marie Joseph, je suis membre du CESE, conseiller du CESE. Mais donc, j'aimerais, donc, parce que effectivement, Mme Barfaite est une spécialiste du sujet. Et moi, j'aimerais d'abord, parce que je pense qu'il est important, de savoir que la dernière réforme du CESE donc, a fait dans notre institution, si vous voulez, le forum de la société civile. Donc il serait important, à mon sens, de commencer mon propos en vous présentant le CESE. Je pense que c'est de savoir qu'est-ce que c'est que cette institution et surtout qu'est-ce que vous pouvez en tirer, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Alors permettez-moi de faire donc un petit focus sur le CESE. Hein? Ah, donc le Conseil économique, social et environnemental national, puisque vous avez les CESE locaux dans chacun des territoires, est la troisième assemblée constitutionnelle de la République. Et c'est surtout donc un rouage essentiel à notre démocratie. Il conseille le gouvernement et le Parlement et participe à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques dans ses champs de compétences, qui sont assez divers et variés. C'est une expression démocratique de la société civile qui agit. Il fonde son travail sur l'écoute, le dialogue et la recherche du consensus exigeant pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain et surtout éclairer la décision publique. Le CESE regroupe 175 membres, femmes et hommes de terrain, désignés par les corps intermédiaires, associations, syndicats de salariés, organisations, patronales. Parmi ces conseillers se trouvent 8 conseillers dont la mission consiste à représenter les organisations exerçant leur activité dans les départements et régions d'outre-mer, ainsi que les collectivités d'outre-mer. 4 représentants de la zone de l'océan Atlantique, 2 de la zone de l'océan Indien et 2 de la zone de l'océan Pacifique. Nous siégeons donc au sein du groupe des Outre-mer qui a pour fonction de porter au sein du CESE, mais au-delà, auprès de l'ensemble des institutions, la voix de la société civile, ou devrais-je dire des sociétés civiles ultramarines. Alors bien sûr, je présente Inès Mouchot-Choisy, qui est la présidente donc, du groupe Outre-mer, hein, je vous laisse se lever, hein, qui est la présidente et qui est donc venue donc, participer à la GEM avec nous. Moi, je suis donc sur la Martinique. Ce nécessaire trait d'union entre les organisations, les citoyens et les pouvoirs publics sont d'autant plus légitimes que notre société, déjà traversée par bon nombre de fractures et de défiances, doit affronter les conséquences économiques, sociales et structurelles d'ailleurs post-Covid. De ce fait, la société civile, dans toutes ses composantes, a plus que jamais la grande responsabilité d'apporter réponses et propositions à ces défis. C'est par conséquent un plaisir de m'exprimer devant vous aujourd'hui, car en tant qu'élu, vous référez sûrement davantage à vos députés et à vos sénateurs, mais je profite de cette occasion pour vous rappeler qu'aux côtés de l'Assemblée nationale et du Sénat, vous avez 8 représentants ultramarins qui sont prêts à travailler avec vous. Apportez à vos côtés vos préoccupations dans les institutions nationales. Nos contributions sont très riches, sont très importantes, et je pense que vous devriez y avoir accès, car il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites. La dernière, d'ailleurs, sur la gestion de l'eau, donc dans les régions ultramarines, est remarquable. Alors, pour parler un petit peu de la démocratie participative, c'est vrai que Nathalie en a parlé beaucoup, hein, et très bien d'ailleurs, hein, c'est son domaine de compétences, hein, des connaissances. Donc j'interviens à cette table ronde puisque l'une des innovations de la dernière réforme du CESE a fait que notre institution en a fait la chambre, ce qu'on appelle d'ailleurs la chambre des consultations publiques. Hein, c'est un petit peu le mot qui est employé. En effet, confier au CESE les prérogatives d'associer à ses travaux des représentants des conseils consultatifs créés auprès des collectivités territoriales, des composants de la société civile non représentés au conseil, comme des représentants du CESER, par exemple, des CESER, ainsi que des personnes tirées au sort. D'ailleurs, c'est la réforme avec le tirage au sort. Donc, ainsi, la loi organique réformant le CESE du 15 janvier 2021 nous confie plusieurs outils de sollicitation des citoyens. Donc, en préambule, rappelons qu'il y a la saisine du CESE par voie ou pétition pour toute question à caractère économique, social ou environnemental. Par ailleurs, le CESE peut initier des groupes de citoyens pour les associer plus directement à l'élaboration des avis. Certains d'entre eux peuvent directement être intégrés dans les commissions temporaires afin de travailler aux côtés des conseillers que nous sommes, membres, et leur contribution est présentée en assemblée plénière. Puis, le CGPE à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation publique dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation. Cette procédure, plus connue sous le nom de convention citoyenne, nous l'avons déjà expérimentée avec la convention citoyenne pour le climat, où 150 citoyens ont été tirés au sort. Cette méthode a l'avantage de viser un nombre de personnes plus important que celles inscrites sur les listes électorales et de pouvoir être mise en œuvre de manière rapide et facile, offrant la possibilité aux personnes tirées au sort de s'organiser d'ailleurs en amont. Nous devrions d'ailleurs organiser une convention, d'ailleurs c'est en cours d'ailleurs d'organisation, une convention bientôt sur un sujet très important aujourd'hui, celui de la fin de vie, qui va nous toucher tous. Un jour ou l'autre. C'est ainsi la vie, que va la vie. Évidemment, donc ce rappel nécessaire des différentes dispositions de la loi permet de vous informer sur les prérogatives de notre institution, donc le CESE, et de notre capacité à mobiliser les citoyens ultramarins dans nos travaux. Cependant, nous devons nous interroger sur deux questions principales. Société civile et participation citoyenne. Quel apport pour une meilleure gouvernance donc des territoires? La seconde serait à poser à nos élus, comment pourriez-vous vous appuyer, mobiliser les travaux et délibérations citoyennes pour co-construire? Si nous en parlons davantage aujourd'hui, c'est parce que la démocratie participative est utilisée dans tous les débats comme la solution à tous les maux de la société française. Pourtant, elle n'est pas particulièrement récente. Au niveau local, la participation des citoyens apparaît dès 1978 par leur accès aux documents budgétaires et aux délibérations donc du conseil municipal. Ensuite, les différents droits de concertation et consultation locale, comme il y en a quelques-uns, quelques-unes, l'enquête d'utilité publique, le référendum décisionnel local, la commission nationale du débat public, le conseil de quartier, le conseil de développement, le droit de pétition, mais aussi, rappelons-nous, le mouvement mené par les 500 frères en Guyane, les Guyanais sont ici, contre l'insécurité à Mayotte, celui des Gilets jaunes à La Réunion, et plus récemment en Guadeloupe, a vu l'urgence des citoyens dans le débat public. Cette table ronde doit nous permettre de nous interroger collectivement sur le besoin des citoyens à être associés au débat public, non pas pour la simple participation, mais aussi pour co-construire avec les pouvoirs publics. Néanmoins, est-ce que les élus locaux disposent des moyens suffisants de mobilisation de ces dispositifs législatifs de participation citoyenne? À l'heure où le gouvernement organise la convention citoyenne, faut-il plus de démocratie participative? À quel échelon? Merci de votre écoute. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.